VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 16 mars 2022. Bonjour à tous et à toutes. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Claire Morin-Gibourg.
Nous commençons par les titres.
En Centrafrique, le dialogue national avec l'opposition non armée a été fixé au 21 mars par le président Faustin Archange Touadéra.
Reprise ce matin à Doha, au Qatar, du pré-dialogue entre la junte et les groupes politico-militaires tchadiens. Ce sera en seconde partie de cette édition.
Au Sénégal, Santé Djidio appelle à la fin des actions militaires en Casamance pour garder ouverte la voie du dialogue.
Au Nigeria, 11 membres des forces de sécurité ont été tués dans deux attaques de bandes criminelles dans le centre et le nord-ouest du pays.
En Somalie, nouveau retard dans le processus électoral devant mener à la désignation d'un nouveau président.
Ici à Washington, en direct par visioconférence, intervention aujourd'hui du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a convoqué du lundi 21 au dimanche 27 mars à Bangui un dialogue de réconciliation avec l'opposition non armée. Il avait promis ce dialogue après sa réélection contestée il y a plus d'un an, avec moins d'un tiers du corps électoral dans ce pays en guerre civile depuis 2013.
Monsieur Touadéra avait promis ce dialogue maintes fois repoussé après que son pouvoir a été à la veille du scrutin définitivement sauvé d'une vaste offensive rebelle grâce à l'intervention de centaines de paramilitaires russes, des mercenaires de la société privée de sécurité Wagner selon l'ONU. Un des leaders de l'opposition a dit à l'AFP « Nous voulions que ce dialogue se déroule au mois d'avril, cela laissait plus de temps aux participants pour s'organiser ».
Un médiateur dans la crise en Casamance, la communauté catholique Sant'Egidio, a appelé à l'arrêt de l'opération en cours de l'armée sénégalaise contre des rebelles indépendantistes dans cette région sud du Sénégal. Selon Dakar, cette opération annoncée dimanche a pour objectif principal le démantèlement des bases du chef militaire rebelle Salif Sadio, situé le long de la frontière nord avec la Gambie.
Exprimant sa profonde inquiétude, Sant'Egidio a appelé hier à la fin de ses opérations militaires pour sauvegarder la stabilité de la zone concernée et garder ouverte la voie du dialogue en vue d'une paix définitive en Casamance.
Au Nigeria, des hommes armés ont tué hier 7 policiers et 4 miliciens lors d'attaques dans le centre et le nord-ouest du pays. Dernière violence en date imputée à des bandes criminelles lourdement armées. Les autorités disent aussi avoir tué plusieurs assaillants.
Le prix Pritzker 2022, plus haute distinction du monde de l'architecture, a été décerné mardi à l'architecte burkinabé basé à Berlin, Djedebo Djebedo Francis Kéré, le premier Africain à obtenir la distinction, a annoncé l'organisation qui a salué son engagement pour la justice sociale, Jenny Kapumbu-Villa.
Nombre d'ouvrages de Kéré sont érigés sur le continent africain, notamment au Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo, Kenya ou Mozambique. Mais il s'est aussi vu commander des pavillons et installations en Europe et aux États-Unis. C'est la première fois qu'un architecte d'un pays africain reçoit la distinction, qui a déjà couronné les plus grands noms de l'architecture, comme Franck Guéry ou Jean Nouvel. Parmi ses réalisations notoires figurent l'école primaire de Gando, le village de son Burkina Faso natal. Pour les organisateurs du prix Pritzker, cette école est à l'image de la dévotion Kéré à répondre à un besoin essentiel et corriger les inégalités sociales dans des projets au fort potentiel d'usage public. L'école est conçue pour résister à la chaleur, avec des ressources limitées, et son succès a conduit à la construction de logements pour les enseignants, à l'extension de l'école et à une nouvelle bibliothèque.
La Somalie n'a pas achevé les élections à la chambre basse du Parlement à la date butoir fixée à ce mardi, marquant un énième retard dans le processus électoral qui doit mener à la désignation d'un nouveau président. Davantage de détails avec Mohamedou Mfa.
Le gouvernement somalien, qui avait repoussé le mois dernier au 15 mars le délai pour boucler la désignation des membres de la Chambre basse, n'a fait aucune communication mardi jusqu'en début de soirée. 39 des 275 sièges de la Chambre basse restent à pourvoir dans trois États, Jubaland, Irshabelle et Puntland. Les autorités électorales du Puntland ont annoncé que le scrutin pour les six derniers sièges à pourvoir dans cet État aurait lieu vendredi. La clôture des élections de la Chambre basse constitue une étape capitale en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Selon le système électoral somalien, les assemblées des États fédéraux et des délégués choisissent les législateurs qui ensuite désignent le président. Le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, a expiré le 8 février 2021 sans qu'il ait pu s'entendre avec les dirigeants régionaux sur l'organisation des élections. Les reports des élections à répétition inquiètent la communauté internationale qui estime qu'ils détournent l'attention des autorités des sujets cruciaux pour le pays comme l'insurrection des Chebab.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aujourd'hui à l'ensemble du Congrès américain en direct par visioconférence, une nouvelle façon pour les élus de presser le président Joe Biden de muscler sa riposte à l'invasion russe de l'Ukraine. Des précisions avec Jacques Aristide.
L'intervention du chef de l'État ukrainien va être transmise dans un auditorium du Capitole à partir de 9h, heure de Washington. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, se réjouissent d'accueillir Volodymyr Zelensky pour son discours devant les deux institutions américaines et de transmettre leur soutien au peuple ukrainien. Les deux dirigeants démocrates ajoute que le Congrès américain demeure inébranlable dans son engagement à soutenir l'Ukraine face à ce qu'il qualifie d'agression cruelle et diabolique du maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Le Congrès, réputé pour ses querelles partisanes, présente un front uni dans la réponse à Moscou, appelant régulièrement le président Biden à durcir le ton. Volodymyr Zelensky a déjà échangé avec des élus américains par vidéo le 5 mars dernier, quelques jours plus tard, une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars d'aide en faveur de Kiev a été adoptée par Washington. Hier, devant le Parlement canadien, le président Zelensky a demandé aux alliés de l'Ukraine d'accentuer leur soutien après avoir pris la parole devant le Parlement britannique il y a quelques jours.
Le président Biden va annoncer, après le discours de M. Zelensky, une aide de 800 millions de dollars pour aider l'Ukraine à faire face aux forces russes.
Joe Biden, qui va se rendre à Bruxelles le 24 mars, il doit participer le même jour à une réunion de l'Union européenne ainsi qu'à un sommet extraordinaire de l'OTAN consacré à l'invasion de l'Ukraine. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé dans un tweet que Joe Biden se joindra aux dirigeants de l'Union européenne pour discuter du soutien à l'Ukraine et à son peuple et au renforcement de la coopération transatlantique face à l'invasion russe de l'Ukraine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a confirmé le déplacement de Joe Biden en Europe, précisant qu'il vise à imposer des coûts économiques à la Russie, fournir une aide humanitaire à ceux qui sont touchés par la violence et répondre à d'autres défis. Pour ce qui est de la réunion de l'OTAN, Joe Biden réaffirmera l'engagement à toute épreuve des États-Unis auprès de leurs alliés de l'Alliance, a indiqué Mme Psaki. En cette période critique, l'Amérique du Nord et l'Europe doivent continuer à faire front ensemble au sein de l'OTAN, a dit Jen Psaki. L'Alliance Atlantique a jusque-là refusé de mettre en place une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, comme le réclame Kiev.
Sur le terrain, l'offensive russe s'est intensifiée mardi avec une série de frappes sur Kiev, placée sous couvre-feu. Une frappe contre un immeuble d'habitation a causé la mort d'au moins 4 personnes, selon le maire de la capitale, encerclée par les forces russes et vidée d'au moins la moitié de ses 3,5 millions d'habitants. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes ont défié les bombes en visitant hier Kiev en signe de solidarité.
En bref, quelques 30 millions de Chinois confinés, confrontés à son pire regain épidémique depuis la première vague de 2020. La Chine multiplie les quarantaines sans parvenir à éradiquer la souche Omicron.
La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Les envois de fonds des Égyptiens de la diaspora ont atteint 31,5 milliards de dollars en 2021, selon les données publiées mercredi par la Banque centrale égyptienne et relayées par Financial Afrique. Des envois de fonds représentent l'une des sources les plus importantes de devises étrangères de l'Égypte. Le pays occupe la sixième place du classement des pays les plus réceptifs aux envois de fonds de l'étranger de la Banque mondiale. Le Trésor public camerounais a effectué le 14 mars un paiement d'intérêt de plus de 2 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Selon investirocameroun.com, l'information a été révélée par le tableau de bord des opérations du marché des valeurs du Trésor de la CEMAC. Selon les données du ministère camerounais des Finances, depuis le lancement du marché des titres publics de la BEAC en 2011, le Cameroun y a remboursé des dettes et intérêts d'un montant de plus de 3 000 milliards de francs CFA sans défaut de paiement, ce qui en fait un pays crédible pour de nombreux investisseurs. Malitel et Orange Mali, deux opérateurs de téléphonie, ont été condamnés en appel à verser 177 milliards de francs CFA, soit 305 millions de dollars, suite à une plainte du réseau malien des consommateurs du secteur des télécommunications. Un arrêt de la Cour d'appel de Bamako rendu en novembre 2021 avait rejoint la plainte du réseau des consommateurs en estimant que les deux opérateurs auraient facturé des appels téléphoniques sur répondeur. L'affaire devra désormais être tranchée par la Cour suprême.
Merci, Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît les quatre clubs de la Conférence Sahara. Qualifié pour les playoffs de la deuxième édition de la Basketball Africa League, hier à la Dakar Arena, les Marocains de l'AS Salé ont assuré leur qualification en battant les hôtes sénégalais du Dakar Université Club 91-86. Les Sénégalais sont donc éliminés, tout comme les Mozambicains défaits par Rwanda Energy Group 94-89. Les Rwandais finissent premiers de cette conférence Sahara, suivis par les Tunisiens de l'US Monastir. Les Marocains de l'AS Salé se classent troisième et les Guinéens de Slack bouclent le podium qui poursuivra l'aventure lors de cette deuxième saison de la balle. Six clubs de cette conférence Sahara se sont affrontés du 5 au 15 mars à la Dakar Arena. 15 matchs disputés, des rencontres de haut niveau selon le président de la balle, Amadou Galofal, satisfait de cette première phase.
Une bonne entrée au début pour notre saison 2. Ici à Dakar Arena, c'est vrai que l'édifice est vraiment de standard, comme ce qu'on a vu à Kigali, avec des matchs très relevés ici. D'abord, c'est un constat. On a vu que par rapport à la dernière, on constate déjà une amélioration au terme du niveau d'organisation des équipes, des recrues. Les équipes sont venues mieux préparées. Et en ce qui nous concerne, bon, c'est la première fois qu'on organise ici à Dakar, mais on a beaucoup de raisons d'être très encouragés par ce que nous avons pu accomplir ici.
Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League, au micro de Seydina Abagué, notre correspondant à Dakar. Football, l'Atlético Madrid a surpris Manchester United 1-0 à Old Trafford pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après le nul 1-1 à l'aller, les hommes de Diego Simeone se qualifient ainsi pour le 11e quart de finale de Ligue des Champions de leur histoire. De son côté, Benfica s'est aussi qualifié pour les quarts en s'imposant 1-0 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 à l'aller à Lisbonne. L'international ivoirien de l'Ajax, Sébastien Haller, qui avait jusqu'ici inscrit 11 buts en 7 rencontres de Ligue des Champions, est resté muet. À suivre ce soir, le déplacement de Chelsea en France pour affronter Lille. La Juventus Turin reçoit les Espagnols de Villarreal. Le tribunal arbitral du sport a rejeté la demande de la Fédération russe de football de suspendre les sanctions prises par l'UEFA contre les clubs et sélections russes en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Les équipes russes demeurent donc exclues des compétitions européennes jusqu'à ce que le recours de leur fédération soit tranché sur le fond. La juridiction sportive promet une décision d'ici la fin de la semaine sur l'éventuelle suspension des sanctions prises par la FIFA. Concrètement, le Spartak Moscou reste banni de la Ligue Europa et la sélection féminine écartée de l'Euro 2022 cet été en Angleterre, sauf décision finale dans l'intervalle.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le pré-dialogue entre le gouvernement de N'Djamena et les groupes politico-militaires tchadiens, suspendus dimanche, reprend ce matin à Doha, au Qatar, selon un des participants. Ces derniers ont pu s'accorder sur les divergences qui avaient interrompu les travaux d'ouverture, notamment le nombre des groupes politico-militaires présents au pré-dialogue. Pour en savoir plus, Nanit Talani a joint à Doha, au Qatar, Abdelhachidi Djorkodei, représentant du Front de la Nation pour la démocratie et la justice, l'un des mouvements rebelles tchadiens.
Le 13, c'était l'ouverture officielle. Et voilà, déjà au commencement, on nous a remis le planning de la journée. On avait remarqué qu'il n'y a pas dans le chrono la prise de parole du côté politico-militaire. On s'est concerté, on a presque demandé l'avis de tout le monde et tout le monde était d'accord que au moins notre voix soit audible parce qu'on a aussi des choses à dire. Et c'est ce qu'ils n'ont pas vraiment pris en compte, surtout dans leur planning. C'était moi, la première personne, qui avait demandé au ministre qatari des Affaires étrangères. J'ai dit, bon, c'est vrai, nous aussi, on a besoin au moins quelques heures. On doit se concerter d'abord entre nous politico-militaires. On va essayer d'harmoniser nos positions et maintenant on va essayer de voir comment on peut commencer les discussions avec le gouvernement. Le médiateur nous a au moins donné 72 heures.
Où en êtes-vous donc actuellement avec ces négociations-là?
Nous allons reprendre les pourparlers à 9 heures parce qu'ils nous ont donné 72 heures, c'est épuisé. Donc finalement, ils ont demandé du représentant du côté politico-militaire et du côté gouvernement. Donc nous, maintenant, comme on a eu des groupes, donc chaque groupe aura au moins 12 représentants et chaque groupe va rencontrer le gouvernement en présence du Qatarico.
Ah, donc finalement, vous avez pu accorder vos violons?
Exactement.
Combien de temps les discussions vont-elles durer cette fois-ci?
On ne sait pas parce que nous ne savons pas exactement quand est-ce que les discussions vont prendre fin. Et le problème jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu résoudre le problème du rôle du Qatar. Parce que jusqu'à présent, le Qatar n'a pas accepté d'être médiateur. Il ne voulait pas être médiateur de 52 mouvements. Et parmi les 52, il y a des mouvements qui sont venus directement de N'Djamena. Il y a des mouvements qui ont été créés comme ça par le régime en place pour essayer de diluer les autres.
Le fait de ne pas avoir d'abord réglé cette question ne risque-t-il pas d'entraver même le pré-dialogue que vous êtes en train de reprendre?
Nous allons beaucoup plus insister sur le rôle du Qatar. Parce que si le Qatar ne joue pas le rôle de médiateur, je pense qu'il n'y aura pas un pré-dialogue ici au Qatar. On ne voit pas cette volonté qu'ils ont affichée avant, quoi. Donc ils sont un peu démotivés. Le médiateur, la personne qui représente le Qatar, le facilitateur, il avait demandé qu'il faut essayer de se concerter et nous envoyer seulement 10 représentants parmi les 52 mouvements pour essayer de faciliter les choses, pour ne pas avoir 130 personnes.
Qu'allez-vous faire si le Qatar refusait de jouer ce rôle de médiateur ou de facilitateur?
Maintenant, ça dépend du gouvernement. S'il a toujours l'intention, s'il a toujours la volonté, s'il y a cette sincérité et l'honnêteté de continuer pour parler avec nous, donc l'État a les moyens, l'État a aussi les contacts. Il peut contacter d'autres pays qui sont là, qui sont candidats et qui ont la volonté d'organiser ces pré-dialogues. Quand nous, on avait reçu les invitations, le Qatar voulait jouer le rôle de médiateur. C'était ça, c'est sur cette base qu'on est parti. Mais une fois arrivé, on a vu un nombre tellement important de politico-militaires, donc tout le monde était surpris. Il y a la Turquie, il y a aussi les Émirats, il y a d'autres pays qui ont demandé, mais ils ont préféré le Qatar. Si le Qatar ne peut pas accepter tous les 52 mouvements, et ils vont faire le choix entre les Émirats ou bien la Turquie.
Abdelhachidi Djorkodei, représentant du Front de la Nation pour la démocratie et la justice, l'un des mouvements rebelles tchadiens, il a été joint à Doha au Qatar.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le début des pourparlers à Doha entre le pouvoir tchadien et le nombreux groupes rebelles. Des discussions déjà suspendues mais jugées cruciales avant le dialogue national prévu à partir du 10 mai. N'Djamena souhaite la participation des groupes armés et des formations politiques à ce dialogue qui pourrait aboutir à un calendrier électoral permettant un retour à l'ordre constitutionnel. Le pouvoir et les groupes armés pourront-ils s'entendre à Doha? Qu'en est-il du processus de retour à un pouvoir civil? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Gabon, l'annonce d'une candidature d'Ali Bongo à la présidentielle de 2023 suscite des réactions à Libreville. Selon une partie de l'opposition, cette annonce est hâtive et révèle la fébrilité du pouvoir. Mais pour l'opinion publique, la volonté du président gabonais de briguer un troisième mandat à la tête du pays est tout sauf un mystère depuis qu'il s'est remis de son accident vasculaire cérébral. Au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obangzié, quelques réactions.
Oui, en réalité, ce n'est pas une surprise. Les textes du Parti démocratique gabonais sont très clairs. Le président du parti est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. En réalité, il y a plusieurs mois, lorsque le président donnait sa première interview au Panafricain Jeune Afrique, il avait quasiment annoncé sa candidature, d'autant qu'il avait précisé qu'il était plus en forme qu'avant et que de toutes les manières, il sera là en 2023 et même au-delà. Donc on devrait déjà y voir l'annonce du président de se porter candidat alors qu'il y avait de nombreuses spéculations sur cette question.
Moi je dirais tout simplement que c'est un citoyen comme tout autre. Hein, il a le droit de le dire, de se présenter à nouveau. Maintenant, seules les urnes parleront.
Ouais. Le chef d'État, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, parce que au-delà des préjugés, il est le seul à véritablement dire aux Gabonais s'il était capable ou pas. Alors, lui-même, il a fait la déclaration, donc on se rend compte qu'il est apte à poursuivre, sinon à parachever ce qu'il a commencé. C'est mon nom de la vie.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
C'est un sacre inédit pour un Africain, le prix Pritzker, reconnu comme le Nobel de l'architecture, a été décerné hier à l'architecte burkinabé Francis Kéré. Ce prix est remis au grand nom de cet art chaque année depuis 1979. Francis Kéré est connu pour l'utilisation de matériaux locaux et pour son implication dans des projets utiles à la population, comme les écoles, établissements de santé ou espaces publics, dans plusieurs pays africains tels que le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Togo, le Kenya et le Mozambique. Joint à Porte-Novo au Bénin par Bagassi Koura, l'architecte Francis Kéré réagit.
Je réagis à ce prix. D'abord, j'étais surpris. Je suis très heureux. Je suis très fier. Peu de travail que j'ai toujours considéré comme une passion et cette reconnaissance internationale. Et donc je suis très heureux et plein de gratitude pour tous ceux qui ont toujours cru en moi et qui m'ont donné la possibilité de travailler. Voilà, oui. Je suis très fier.
Vous recevez ce prix au moment où votre pays traverse des moments très difficiles. À quoi ça vous fait penser?
Oui, je suis triste pour les familles qui ont des victimes, voilà, les familles aient pleuré et je souhaite que la paix revienne dans mon cher pays et que nous puissions voyager sans souci et voilà, c'est tout ce que je ressens. Je suis avec toutes les familles et pleurer, mais j'espère que ce sentiment de voir qu'un des compatriotes du Burkina Faso ait eu cette reconnaissance internationale, soit une consolation et aussi un signe qu'il faut toujours croire et il faut continuer à se battre.
Alors, vous vous êtes reconnu pour quelqu'un qui utilise beaucoup les matériaux locaux. C'est ça qui fait votre force?
Je suis ouvert à tout ce que nous pouvons trouver dans la nature. Je suis très heureux que ce que j'ai utilisé, que le travail qui constitue à regarder qu'est-ce qu'il y a autour de plus abondant, qu'est-ce qui ne fait pas de préjudice à l'environnement, et comment l'utiliser et comment faire pour créer un endroit confortable, et permettez-moi de dire, créer du luxe pour les plus démunis, mais aussi dire aux plus munis que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'il faut faire un gaspillage. Et donc, c'est cette approche qui a été reconnue. J'aime l'architecture, j'aime créer, que ce soit des meubles, que ce soit l'espace bâti, j'aime et j'aime faire attention à l'écologie. Et si c'est la raison pourquoi j'ai été reconnu, alors je suis très fier et je crois que c'est un encouragement de continuer dans ce sens.
Francis Kéré, lauréat du prestigieux prix Pritzker qui récompense chaque année un grand architecte du monde. Il a été joint à Porto Novo au Bénin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En République démocratique du Congo, au moins 75 personnes ont perdu la vie le week-end dernier dans le déraillement d'un train dans la province de Lualaba, dans le sud-est. Il s'agit d'un énième accident du genre qui laisse plus de 125 blessés, dont certains avec des traumatismes graves. Eddie Isango a joint à Kolwezi le ministre provincial de l'Intérieur, Deodat Kapenda.
Il y a eu 75 blessés, non, on a donné depuis le début. 125 blessés, dont 28 avec une traumatologie un peu plus accentuée et qui nécessite un transfert de la structure de l'UNIDI et de l'UNA vers d'autres structures sanitaires un peu plus utiles.
Qu'est-ce qui aurait provoqué l'accident?
Vous savez, il est de la SNCC. Qui lui est très bien, qui a des éléments nécessaires, techniques, endogènes et exogènes, pour expliquer l'accident. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une rupture entre la locomotive et l'ensemble des voitures qui suivaient. Non, parce que l'endroit, c'est comme une pente de descente et de départ. Et à un certain moment, la charge étant très lourde, le train n'a pas su continuer l'élan. Et voilà que les voitures se sont retrouvées dans les ravins de part et d'autre de la voie.
Qu'est-ce qui a été pris comme précaution parce qu'il y a eu dans le passé, au même endroit, presque au même endroit, des accidents pareils?
Oui, c'est pas seulement au même endroit, il y a eu d'autres accidents ailleurs. Mais lorsqu'on dit que c'est un train marchandise, les gens doivent attendre le train voyageur pour monter et se déplacer d'un point A à un point B. Mais s'ils attendent le train marchandise pour que, nuit avant, ils puissent se faufiler dans le train et sur le train, moi, je crois que la SNCC continue à prendre les dispositions qu'il faut avec ce qu'on appelle le corsu, c'est-à-dire la sécurité ferroviaire, pour éviter ce genre de choses. Mais malheureusement, ça revient. On ne peut pas non plus demander à la SNCC de ne plus mettre sur la voie les trains marchandises et les trains voyageurs, sinon alors l'économie de notre pays serait coupée.
Deodat Kapenda, ministre de l'Intérieur du Lualaba, dans le sud-est de la RDC.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Claire Morin-Gibourg, Michel Joseph à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.